juste un petit résumé, donc on commence Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur le Perek Yud Gimel. On parle toujours du Benoni, parce que n'oubliez pas que le Tania s'appelle le Sefer Shel Benoni, le livre du Benoni. On va essayer d'expliquer un petit peu, parce qu'il y a plusieurs qui n'étaient pas là la semaine d'avant, donc on va essayer juste de récapituler. Donc, on parle du Benoni, on a expliqué, si vous voulez, le Benoni c'est un petit peu la star du Tania. On a expliqué la semaine dernière que la Gemara, elle avait dit, quand elle parlait de, quand elle donnait la définition du Benoni, elle disait que le Benoni, Zevazé Shoftan. D'accord? Elle dit que le Benoni, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara le juge. Donc la semaine dernière, on a fait tout un cours pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le Benoni se fait juger par le Yetzer Tov et par le Yetzer Hara. On a employé le terme juger, jugement. Pourquoi jugement? Alors on a expliqué la semaine dernière qu'en fait, pour répondre à cette question, il faut d'abord développer quel est le rôle d'un juge. À quoi sert un juge? Le juge n'est pas forcément celui qui va donner le verdict. Parce qu'il peut avoir plusieurs juges. Le juge, c'est celui qui va émettre un point de vue, qui va donner une analyse des faits, et que il va dire par rapport à ce que moi on m'a montré, moi je pense que c'est comme ça. C'est une analyse qui est réfléchie. Si c'est une analyse qui est un sentiment de ton cœur, dans ce cas-là, c'est plus un juge. Un juge doit donner une analyse réfléchie. D'ailleurs, la Gemara nous dit que quand un juge donne un jugement, on a le droit de lui poser la question, mais Echan Dantuni. Ça veut dire, pourquoi vous m'avez jugé comme ça? Quelles sont vos preuves? Je ne sais pas si, qu'est-ce que dit la loi française sur ça. Ça, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, pas faire appel. Je peux demander au juge, donnez-moi, expliquez-moi pourquoi vous avez jugé comme ça. Sur quoi vous êtes basé?
Il y a des rendus du jugement.
Certainement que le juge doit donner un rendu. Il doit expliquer pourquoi il l'a fait. Il n'a pas le droit de dire stam comme ça, j'ai jugé comme ça. Et donc, c'est ce que la Gemara a dit. Elle dit que, on a le droit de demander au juge, mais Echan Dantuni, ça veut dire d'où vous m'avez jugé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi le rôle? Le rôle d'un juge? Le rôle d'un juge d'après la Torah, c'est de juger de manière objective par rapport aux éléments qu'il y a, de juger et de donner un verdict. D'accord. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a deux juges? Un juge, il dit blanc, l'autre juge dit noir. Qu'est-ce que vont faire les deux juges? On a expliqué la semaine dernière que dans ce cas-là, les deux juges vont faire appel à un troisième juge, qu'ils vont nommer ensemble. C'est ce qu'on appelle la procédure juridique de Zabla. Zabla, ça veut dire que chaque juge, c'est-à-dire chacun des plaignants va choisir un juge, et les deux juges ensemble vont choisir un troisième juge. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Comme ça, personne ne pourra dire, non, mais c'est mon juge, c'est ton juge. Les deux juges ensemble, ton juge et mon juge, ont choisi un troisième juge. Et là, effectivement, le troisième juge, c'est lui qui va donner le verdict. C'est lui qui va donner le verdict, qui va dire, bon, ben voilà, moi je vais donner mon point de vue. Et donc, son point de vue sera ou d'un côté ou de l'autre. Donc forcément, on va suivre l'avis de la majorité, et quand il y aura deux qui ont dit blanc, un qui a dit noir, dans ce cas-là, on va trancher blanc.
Mais ça vient du roi Salomon, ça.
Ça c'est de la Torah, ça. Ça c'est depuis la Parasha Mishpatim, on parle de ça, de la notion de rabim, la notion de la majorité, qu'on a toujours penché selon la majorité. Donc on a appris le rôle du juge. Pourquoi je vous parle d'un juge maintenant? On n'est pas là pour faire des affaires juridiques. On a expliqué la semaine dernière qu'en fait, de la même manière. Le Yetzer Tov et le Yetzer Hara sont des juges. Ce ne sont pas ceux qui auront le dernier mot, mais c'est des juges. Un juge, on écoute quand il dit quelque chose. Quand un juge parle, on l'écoute. Ce n'est pas comme quelqu'un de la rue qui parle. Ce n'est pas une manifestation quand un juge y parle. Quand un juge y parle, c'est sérieux. Donc, le Yetzer Tov parle. D'accord. Le Yetzer Tov parle, le Yetzer Hara parle. Les deux parlent. Mais chacun est un juge. C'est-à-dire chacun dans son point de vue. Le Yetzer Tov est dans son point de vue. Il dit, d'après moi, je pense que tu devrais faire une mitzvah. C'est mon point de vue, logique, étayé. Le Yetzer Hara dit, moi je pense que tu devrais faire maintenant une avéra. Et moi je suis entre les deux. Donc il nous faut un troisième juge. C'est qui le troisième juge? C'est qui celui qui va nous aider? Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière? C'est qui le troisième juge? Le troisième juge, c'est Akadosh Baruch Hu. Et là en fait, la semaine dernière, on a touché à un sujet qu'on a fait que commencer à développer. La notion qu'en vérité, si on n'avait pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est impossible de gagner la guerre contre le Yetzer Hara. On n'en avait jamais parlé jusqu'à maintenant de ce sujet-là. Jusqu'à maintenant, toujours, on expliquait que bon, bah, quelque part, Dieu nous a donné la capacité au cerveau de dominer le cœur et qu'on peut se débrouiller, qu'on peut s'en sortir. On n'avait jamais parlé de la notion que finalement, s'il n'y a pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est ce qu'on expliquait la semaine dernière.
On ne peut pas gagner la guerre.
Tout court. Impossible. C'est impossible. Ça veut dire que les deux parties sont tellement chacun déterminé dans son camp que c'est impossible de gagner la guerre. On ne peut jamais avoir 100% de réussite. C'est impossible. Il nous faut forcément l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Moi, à mon avis, en ce qui me concerne, je pense que ce qui se passe en Israël, c'est comme quoi Kadosh Baruch Hu, il nous montre toujours des rapports dans la tête, que ce qui se passe en Israël, c'est mamash exactement la même chose. Que logiquement parlant, Enfin, tel que, à moins que l'État d'Israël nous cache certaines choses et qu'on ne connaît pas encore, mais logiquement parlant, tel que c'est perçu maintenant, il n'y a pas de solution, à moins qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à trouver une solution. D'accord ? Là, y a pas, là maintenant, il n'y a pas de solution, parce que chacun est déterminé. Personne ne veut la paix, tout le monde veut la guerre. C'est-à-dire, chacun veut aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de possibilité. C'est-à-dire, personne ne craque. D'accord ? Donc, c'est pour ça que ça rend les choses très, très, très compliquées. Et en vérité, quelque part, on vit tous la même chose au fond de nous, entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Je me lève le matin, le Yetzer Tov dit, aujourd'hui, je vais assurer, je vais faire des mitzvot. Le Yetzer Hara dit, non, mais moi, je me laisserai pas faire. Et du coup, c'est une guerre constante. Et chacun, il se laisse pas faire. Chacun, il lâche pas. Bonsoir, Razak. Chacun, il se laisse pas faire. Chacun, il lâche pas. Donc, il nous faut une aide. C'est qui cette aide? C'est pas les Américains. C'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Cette aide, c'est Akadosh Baruch Hu qui est là, qui nous aide et qui va aider. Alors, on a juste commencé à expliquer la semaine dernière. Que Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, finalement, c'est quoi le Yetzer Tov, c'est quoi le Yetzer Hara? Le Yetzer Tov, son rôle, c'est la lumière. Le Yetzer Hara, son rôle, c'est l'obscurité. Seulement, c'est quoi le problème? C'est que, par moment, l'obscurité peut avoir l'air de lumière. Ça veut dire que l'obscurité, des fois, peut paraître tellement attirante qu'on croit que c'est la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu pour nous donner de l'aide, de temps en temps? De temps en temps, Dieu, il ouvre les yeux au monde. Il ouvre les yeux à l'homme. Je veux d'abord expliquer par rapport à l'homme. Il ouvre les yeux à l'homme à tel point que l'homme, tout de suite, il voit, il dit, mais c'est évident que le Yetzer Tov a raison. C'est évident que la lumière est là. Et automatiquement, ça vous donne quelques semaines, quelques jours de protection face au Yetzer Hara, que bon, tout le monde sait que le Yetzer Hara, il faut pas l'écouter parce que c'est un imbécile. Mais après, forcément, on revient à la charge. Donc, je pense, en ce qui me concerne, que c'est mamache l'actualité qu'on vit aujourd'hui, que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné quelques jours comme ça, que les nations ont vu qu'on a raison, mais ça, c'est exactement comme le Yetzer Hara, ça dure pas longtemps, ça. Ouais. C'est une aide qui dure pas longtemps. C'est mamache, exactement comme on a dit. Que Dieu nous donne une aide, il allume la lumière, et quand il allume la lumière, automatiquement, on se rend compte qui sont les bons, qui sont les méchants. Mais après, la lumière, forcément, la lumière de Dieu s'arrête, parce que Dieu veut que ce soit notre travail, et après, hop, on doit recommencer le travail, on doit tout recommencer. D'accord? Donc ça, c'est exactement ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est concrètement, étant donné que le Benoni, au fond de lui, il a toujours du mal, il a toujours son Yetzer Hara, et qu'en vérité, il a jamais changé. Et que qu'est-ce qui a changé, finalement? Franchement, qu'est-ce qui a changé, finalement? C'est uniquement le fait qu'il arrive à chaque fois à se battre. Il arrive à chaque fois à intercepter les attaques du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara lui envoie une attaque, pac, il intercepte, il arrête. Mais en vérité, il ne change pas, parce que il y a toujours des attaques, ils n'arrêtent pas d'être lancées, et lui, il les intercepte. D'accord? Donc c'est pour ça, avec ça, on comprend, on va expliquer, c'est à cette scène d'aujourd'hui, comment ça se fait qu'on avait dit dans la Gemara, qu'on a vu dans le premier chapitre, que c'est écrit que même si tout le monde te dit tu es un tzaddik, à tes yeux, tu dois te considérer comme un rachat. Et là, on avait posé la question dans le chapitre, premier chapitre, on avait dit mais c'est pas logique, comment tu peux dire des choses comme ça? Tout le monde me dit je suis un tzaddik, moi je vais dire je suis un rachat, je vais déprimer. Qui a envie d'aller dormir le soir et de se dire je suis un rachat? T'imagines, tu vas dormir le soir, tu dis bah finalement je suis un rachat. Si tu vas dormir avec un sentiment comme ça, je veux dire comment tu vas dormir, comment tu vas te lever? C'est chlet de parler comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien d'aller s'endormir le soir et de se dire je suis un rachat?
Bah, en plus on dit du rachat arabe, nous.
Alors pourquoi tu parles comme ça? De quel droit?
C'est pas très motivant.
D'accord. Mais attends, une personne qui est religieuse, qui fait les mitzvot, c'est un mensonge de d'aller dormir et de dire je suis un rachat. Ah voilà, donc c'est ça la question qu'on se pose. Parce que si on dit que Stam il se ment, Stam pour se mentir, ça marche pas ça chez nous. On se ment pas pour se mentir parce qu'au fond de lui il sait qu'il n'est pas un rachat. Il sait très bien qu'il n'est pas un rachat. Il sait très bien qu'il se comporte bien. Et les rachats il les connaît, il les voit dehors dans la rue. Alors ce qu'il explique ici c'est qu'en vérité, quand on remarque dans les mots, on n'a pas dit soit à tes yeux, d'accord, un rachat. On a dit soit à tes yeux comme un rachat. Ça veut dire quoi comme un rachat? Ça veut dire que tu dois te dire que même si, concrètement, dans la pratique, je ne suis pas un rachat, mais entre moi et le rachat, il y a une toute petite limite. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui rend un rachat un rachat? Et là, j'ai envie de faire un tour de table. Qu'est-ce qui fait pour vous, d'après vous, qu'un rachat soit un rachat?
Il n'a pas la reconnaissance de la religion.
Oui. Non, je sais pas.
Non.
Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient un rachat? L'action, d'accord.
Et il se complète dans cette
action. La pensée, la parole, l'action.
D'accord.
Et il se complète, c'est pas accidentel. Il recommence,
les événements,
il manque quelque chose.
Il prend plaisir.
Il voit pas la vérité.
Son plaisir il voit pas personnel. La vérité, très bien.
Oui, il faut la voir.
Est-ce qu'on peut dire qu'une personne naît rachat?
Non.
Enfin, ça dépend, il y en a, oui. Hein.
Non, non.
Les événements.
Ah, très bien. Il arrive à une bonne question. Est-ce qu'on est prédestiné à être rachat?
Non. Il y en a qui disent maintenant que oui.
C'est la seule chose qu'on a le libre arbitre.
Alors, c'est quoi la réponse? La réponse est très simple, bonsoir. La réponse est très simple. La réponse est que, en fait, Akadosh Baruch Hu ne décide pas si je vais devenir un tzaddik ou un rachat. Ça, c'est clair. Seulement, Kadosh Baruch Hu peut me donner une nature de rachat. Et ce que vous devez savoir, c'est que 99,9% des gens ont une nature de rachat. On a tous ici une nature de rachat. Ça veut dire une nature de vouloir fauter. Seulement, qu'est-ce qui va faire la différence entre le rachat et nous? Enfin, j'espère, d'accord? C'est que nous, on essaye au moins de pas toujours écouter le Yetzer Hara. Seulement, puisqu'on a compris qu'en vérité, au fond de nous, on veut faire des Averos, donc entre moi et le rachat, il y a une toute petite limite. C'est une volonté qui fait que je ne faute pas, mais cette volonté peut changer du jour au lendemain, et du jour au lendemain, je peux dire, ben, j'intercepte plus. La semaine dernière, on a pris l'exemple d'un missile. Imaginez un exemple, il n'y a que des missiles qui n'arrêtent pas d'être jetés sur vous, et vous les interceptez. Mais ça veut dire qu'il suffit qu'une seconde, vous vous arrêtez d'intercepter, vous éteignez la machine, qu'est-ce qui se passe? Vous faites esquinter. Mais parce que les missiles ne s'arrêtent pas. Donc voilà pourquoi l'Admor HaZaken veut dire ici, il vient un peu, si vous voulez, nous donner une leçon d'humilité. Surtout sans rapport avec le IMM d'aujourd'hui. Ce matin, dans le IMM, on a dit que la grande qualité de Mashiach, c'est quoi? Sera son humilité. L'humilité. Qualité numéro 1, l'humilité. Et là, l'Admor HaZaken veut nous donner une leçon d'humilité. Parce que chez les Chassidim, il n'y a pas quelque chose de plus détesté comme l'orgueil. On ne supporte pas l'orgueil. L'orgueil, c'est-à-dire celui qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Et vous savez, des fois, à force de se répéter des choses, on croit qu'on est devenu quelqu'un. À force de se répéter qu'on est un tzaddik, qu'on est quelqu'un, qu'on est important, etc., oui, on finit par croire qu'on est devenu un tzaddik. D'accord? Alors qu'en vérité, on ne l'est pas. D'où l'Admor HaZaken qui va te dire ici, c'est pour ça que la Mishnah insiste pour te dire, attention, tu es qu'un rachat, tu es comme un rachat. Et ça nous rappelle ce qui est écrit dans la Parasha Bereshit, ce que Dieu déjà avait prévenu Adam Arishon, Caïn et Avel. Il leur a prévenu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, la pétar chatat rovetz. Ça veut dire que la faute t'attend à la porte. C'est quoi à la porte? Ça veut dire que tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée quand ça peut arriver. Ça peut te tomber sur la tête et tu n'as aucune idée comment ça va se passer. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on a fait la semaine dernière. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les mots. Allez-y, il y avait des questions? T'as raison. Personne veut être rachat. Mais ce qu'il veut te dire ici... Non, attends, justement. Il n'a pas dit ici que je dois être un rachat. Que je dois me dire je suis rachat.
C'est mort.
Je dois me dire que je suis comme un rachat. Ça veut dire que quand je vois une personne qui fait pas Shabbat, qui fait des bêtises dehors dans la rue, et que moi je passe à côté de lui, et que je me dis, mais il n'y a pas photo, regarde-lui, regarde-moi, il n'y a pas photo. Eh bien, qu'est-ce qui te dit ce texte? Il te dit non. La Mishnah te dit, il y a photo. Il y a une comparaison. Sauf que quoi? Toi, tu as eu la chance que ta volonté a été assez forte pour intercepter les attaques de Yitzhara. Lui n'a pas encore réussi. Toi, tu as réussi jusqu'à maintenant. Peut-être que demain, lui réussira, toi, tu réussiras plus.
Ah,
c'est possible, tout est possible. Tout est possible. Donc, dans ma tête, je dois me dire, je me comporte au jour le jour comme un tzaddik, Baruch Hashem, je fais mon Shabbat, je fais mes mitzvot, Baruch Hashem, je suis reprochable. Mais dans ma tête, je me dis qu'en vérité, au fond de moi, je suis comme un rachat. Pas parce que je vais être jugé comme un rachat. Je suis comme un rachat, ça veut dire que je suis à deux pattes de refauter comme un rachat. Ce qui m'arrête finalement, c'est que la volonté. Je n'ai pas forcément changé intérieurement. D'accord? Le rachat n'arrive plus à un moment à avoir la volonté. À un moment, à force de faire des bêtises, tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu as raison. C'est pour ça qu'on est puni et c'est pour ça qu'on est récompensé. Tu as raison. Seulement, ce qu'il veut te dire ici, ne te prends pas pour un tzaddik alors que tu ne l'es pas.
La volonté, c'est
changer. Je comprends ce que tu dis. La volonté peut nous permettre de changer. Je comprends ce que tu dis. C'est un point très juste ce que tu dis. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que je peux changer, je vais changer, mais au fond de moi, ça reste pourri. Il y a toujours des attaques. Alors attention, c'est pas que ça reste pourri, c'est qu'il y aura toujours un Yetzer Tov, un Yetzer Hara. Et hop, c'est la guerre. Et ça s'arrêtera jamais cette guerre, jamais.
Il y a toujours des contradictions.
Jamais. Jusqu'à la tombe. C'est comme ça. Tu sais qu'on dit que le Yetzer Hara, il attaque une personne jusqu'à son lit de mort. Jusqu'à son lit de mort, il est là, il veut pas lâcher le morceau. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Yemidon.
Amen.
Amen.
C'est marqué en son Gemara que même le jour du Hesped de Yetzer Hara, d'après une certaine définition, on séparera les hommes et les femmes.
Ah, évidemment, c'est sûr ça.
Et moi, je demande pourquoi, puis j'ai plus de Yetzer Hara, pourquoi je séparerai les
hommes et les
femmes. À cause du Hergel.
Oui, de l'habitude. Même dans un endroit, le Yetzer Hara ne nous arrête pas, le Yetzer Hara ne nous rate pas. Même dans les endroits les plus kadosh, les plus saints. Je vous donne un exemple très simple que la Gemara amène. La Gemara a dit, quand on allait au Beth Amikdash, dans la première génération, les gens se disaient que la kedusha du Beth Amikdash était tellement grande qu'il n'y avait pas besoin de séparer les hommes et les femmes. Alors, il y avait une séparation naturelle, mais comment les hommes allaient faire attention à ce qu'ils regardent? Et c'est tout. Et ça s'est passé comme ça pendant des années. Parce que les Chachamim étaient persuadés que la Kedusha du Beth Amikdash était tellement grande que, comme quand tu es devant un tzadik, qui va être là à regarder quelqu'un? Et bien avec le temps, les Chachamim ont compris que non, c'est pas comme ça. Que même dans le Beth Amikdash, même devant le plus grand des tzadikim, le Yitzhara, il s'arrête jamais.
Donc on les a mis en haut.
Donc on les a mis en haut. Comme ça, on dit, celui qui élève sa tête, bon, là au moins, il sait qu'il a levé la tête.
Ben oui.
D'accord?
Parce qu'avant, j'étais en bas et les hommes en haut. Et on voyait les femmes.
Donc, du coup, voilà. Alors, les gens, ils disaient, oui, mon, tu comprends, on est au Beth Amikdash. Mais le Yetzahara, il en a rien à faire, ton Beth Amikdash. Le Yetzahara, il te rate pas. Il t'arrête pas. D'accord? Et je peux vous dire que, on a connu ça aussi, par exemple, dans le Oel du Rabbi. Dans le Oel du Rabbi, les premiers mois, il n'y avait pas de séparation pour les hommes et les femmes. Non, c'était comme ça. On rentrait, chacun est rentré. Et après, moi, les rabbinim, ils ont dit, c'est pas bon. Ben il y a un problème? Non, il n'y avait pas un mélange, il y avait une séparation naturelle. Mais les rabbinistes sont venus, ils ont dit non, c'est pas bon. Ils ont fait une séparation. Je dis, mais attends, on est dans le hall du rabbi, qui va penser maintenant? Oui, parce que le Yitzhara, il ne s'arrête pas. C'est comme ça. On doit mettre des limites, même dans le Beth Amikdash, on mettait des limites. Même le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour, il devait faire certaines préparations avant Kippour et pendant Kippour, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pensée tordue qui lui tombe dans la tête. C'est comme ça. Parce que le Yitzhara ne s'arrête pas. Même le Kohen Gadol, dans sa tête, il se dit, je suis Keracha. Je suis comme un rachat, ça veut dire que je peux tomber aussi rapidement que les autres. Donc je dois faire attention. On doit toujours être sur le qui vive. On doit toujours faire attention. Donc dans les mots. Ah, je suis à l'étude du 25 Tevet. Ah. Mais ah, donc il y a ici un livre pour celui qui veut suivre. Tiens. Khazaka Marcel. Ah, d'ailleurs, entre parenthèses, la caisse est vide, donc pour après les vacances, il faudra la.
Ouais,
il faudra la remplir. On va penser à la remplir. On peut commencer depuis ce soir. Hein,
ah oui,
voilà. Ah, cependant. Mais achar she'ara she'bechalal asmali bebenoni ou betukpo ketol datu. Étant donné que le mal qui se trouve dans le côté gauche chez le benoni, il est aussi fort que sa naissance. Est-ce que vous voyez les mots qu'il dit ici? Il est aussi fort que sa naissance. Ça veut dire qu'en vérité, on ne change pas. Le mal restera toujours aussi fort qu'à ma naissance. Ça, vous savez, ça rejoint un peu l'Avdil. J'ai envie de dire l'Avdil, mais bon, bien que c'est un juif. Ce que Freud dit. Freud, il dit qu'un homme ne change pas. Il dit quelque part, l'homme est comme un animal. De la même manière qu'un animal ne change pas, il dit l'homme ne change pas. Sur ça, si on peut dire, d'accord, le Tanya, qui a été écrit avant Freud, il dit la même chose. Il te dit qu'en vérité, le mal qu'il y a au fond de l'homme sera toujours betokfo, en pleine puissance, qui est tout le dato comme à sa naissance. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, avec la volonté, on a appris à faire en sorte de ne pas le laisser parler.
On le maîtrise.
D'accord? Donc, non, c'est pas qu'on le maîtrise. Attention. Contrôle. C'est pas que tu le maîtrises. Contrôle. C'est que tu as appris à l'intercepter, et bon, à peine il lance le missile, pac, t'es là, tu l'arrêtes. Pac, pac, pac. Et bon, après, du coup, il arrive pas à parler. Mais il est toujours là. C'est-à-dire qu'il suffit d'arrêter de le bloquer, et pac, il repart. Betukpo, ketol dato. Il est aussi fort qu'à la naissance. Ça, je pense que ces deux mots-là, les chassidim, ils s'arrêtaient beaucoup sur ces deux mots-là. Parce qu'en vérité, ces deux mots-là, c'est une grande consolation. Quand des fois, on a des gens qui ont fait teshuva. Et qui se retrouvent des fois des années après leur teshuva. À buter sur des choses qu'ils croyaient déjà réglées. Ils croyaient que c'est réglé. Et là, ils voient qu'apparemment, ils retombent sur le même problème. Quand ils lisent ces mots-là, que l'Admor HaZaken lui dit, écoute, tu n'es pas de sadique, que le Bédoni, c'est aussi fort qu'à sa naissance, le Yitzhara. Bon, il dit, bon, alors dans ce cas-là, ça va, je suis pas seul. C'est rassurant quand tu écoutes ça. Ça veut pas dire qu'on va en s'arrête, mais au moins de savoir que, quelque part, tout le monde est comme ça. Leit avot ta'ava lechol ta'nougé olamazé. Qu'est-ce que veut le Yitzhara? Le Yitzhara, c'est un kiffeur.
Ben oui.
Il veut kiffer tous les plaisirs de ce monde. Et rien ne l'arrêtera devant un kiff.
Le pied.
D'accord? Il veut les kiffs, d'accord? Permis. Mais après, il se suffit pas. Parce qu'un kiff, quand tu t'habitues, c'est comme une drogue. Plus tu t'habitues, il faut augmenter la dose après. C'est comme ça.
Bah oui, parce que...
Et donc, kol ta'anouge olamazé. Le yetzerara, c'est quoi son but? C'est le kiff. C'est lui donner, il veut kiffer tous les plaisirs de ce monde qui existe. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, vous imaginez que il y a des gens, des fois, tellement ils ont de l'argent et tellement ils ont fait des bêtises, qu'après, maintenant, même les bêtises classiques ne les intéressent plus. Donc, ils vont chercher d'autres bêtises, ils vont chercher avec des hommes, avec des bêtises, avec des trucs comme ça, avec des animaux, des malades. Pourquoi? Parce que le Yitzhara, il s'arrête pas. Le Yitzhara, une fois qu'il a eu le plaisir, il veut d'autres plaisirs et d'autres plaisirs et d'autres plaisirs et il ne s'arrêtera jamais. Le Yitzhara, c'est comme une BMA, comme un animal.
Qui détermine le kiff?
C'est moi.
C'est moi.
Quand je suis petit, mon kiff, c'est de manger, d'accord? Le bonbon, après je grandis,
oui,
je
mais attends, je me dis.
En fait, on peut entre guillemets.
Ouais, ce qui va pas là.
Mettre en prison ton Yitzhara, si on vécu dans un ghetto, ça va sortir sans avoir rien à voir.
On peut jamais annuler son Yitzhara, c'est impossible. Évidemment, le Yitzhara, il intervient quand on lui donne de la matière. Il faut lui donner de la matière. Tu comprends? Quand il a la matière à réfléchir, là, il va fauter. C'est pour ça que, pour répondre à sa question, c'est la raison pour laquelle la Torah nous demande de faire attention à ce qu'on regarde. Tu veux dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je parle de regarder?
C'est la chose que j'ai apprise.
D'accord? Pourquoi je parle de regarder? Qu'est-ce que ça dérange? Qui ça dérange?
Par l'œil.
D'accord? Parce qu'en vérité, on te dit, c'est vrai que théoriquement, voir, j'ai rien fait quand j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu? J'ai rien fait du tout. J'ai pas fait de problème. Seulement, on te dit, quand tu as regardé, tu donnes de la matière à ton Yitzhara. Et quand tu donnes de la matière à ton Yitzhara, après, c'est déjà trop tard. Parce que le Yitzhara, c'est une machine qui tourne déjà. Quand tu regardes des choses pas cachères, tu mets de l'essence. Donc quand tu mets de l'essence, le moteur, il fonctionne. C'est comme ça, il n'y a rien à faire.
Oui, mais d'accord? Dis, tu es en train de dire choses pas cachères. Mais elles sont pas faciles à discerner, les choses pas cachères. Parce que c'en est plein de Shulchan Aruch, où il y a des tas d'avis qui sont en train de dire « Oui, mais un tel, il a dit ça. Oui, mais... » Et puis à la fin, c'est très subtil. Et à la fin, tu te dis « Ah, ils ont exagéré, ça, je peux le faire. »
On va commencer par les choses qui sont sans équivoque.
Non, parce que c'est vrai.
Alors,
mais plus on monte...
Maintenant, je vais continuer, je comprends votre question. Je vais continuer avec le Benoni.
Les choses sur lesquelles tu t'interroges, c'est que...
On a envie de dire... Non, mais je comprends sa question. Je comprends sa question. Je vais répondre à votre question tout de suite. En fait, je vais vous expliquer le but de ce Pérec maintenant, le but du cours d'aujourd'hui. Le but du cours d'aujourd'hui, on s'adresse au cours d'aujourd'hui, Rabotai. Le but du cours d'aujourd'hui, on s'adresse à une personne qui est religieuse. Ce que j'appelle religieuse, c'est une personne qui a décidé de suivre la volonté de Dieu. Donc il est Shomer Shabbat, il est traditionnaliste, ses enfants sont en école juive, il essaie de faire ce qu'il peut, il est religieux. Et qu'il ne veut pas se prendre comme un rachat. Et qu'avec le temps, il se dit, ben j'ai changé, je l'écrase un peu, etc. Et là, l'Admor HaZaken vient lui dire que ça ne marche pas comme ça. Que le Yetzara est aussi fort que la naissance. Je vais répondre tout de suite à la question. Normalement, halakhiquement, il y a un principe qui dit que si je prends un petit peu de nourriture non cachère, de viande non cachère par exemple, et que je la mélange avec 60 fois plus de viande cachère, qu'est-ce qui se passe?
Elle s'annule.
Elle s'annule. Donc ça veut dire que la nourriture non cachère, il s'est annulé, et c'est fini, et c'est cachère. Donc, on s'adresse maintenant à ce Benoni qui passe la majeure partie de son temps à faire des mitzvot. Qui a envie de dire, attends, combien de pourcents de ma journée je fais d'Averot?
D'accord. J'ai le droit un petit peu.
Combien de pourcents je fais?
J'ai le droit une minute.
Rien, il dit, qu'est-ce que je fais? 2%, 5%, c'est Batel Bechichim. Qu'est-ce que lui répond l'Admor HaZaken? L'Admor HaZaken lui répond, il lui dit, ton principe de Batel Bechichim aurait marché si c'était un seul moteur. Si c'était un seul moteur qui fonctionne, que là, effectivement, quand t'as mis un peu de mauvaise essence et que t'as mis la majorité de bonne essence, on se dit, bon, c'est insignifiant. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que t'as pas un moteur à l'intérieur, t'as deux moteurs. Donc même si tu fais des efforts pour n'utiliser qu'un moteur, mais l'autre moteur reste toujours là, il est intact. C'est pas parce que tu ne l'as pas utilisé qu'il s'est cassé. Il est toujours là, il fonctionne. Donc, il est toujours aussi fort qu'à la naissance. Si c'était un seul moteur qui fonctionnait pour le Yitzhara et le Yitzhara, là effectivement, moins je l'utilise, plus j'utilise l'autre, plus j'écrase. Il te dit non, c'est deux moteurs. Donc comme c'est deux moteurs, on peut avoir des gens qui ont fait des efforts pour ne pas utiliser leur Yitzhara pendant des années, et à un moment, il se relâche un petit peu, et pas que le Yitzhara revient aussi fort qu'il était. Bon, il lui faut une petite cure pour redémarrer, d'accord? D'accord? Bon, il redémarre et il repart aussi fort qu'avant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Yitzhara, on ne peut jamais l'écraser. On peut simplement décider de ne pas l'utiliser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Je peux juste décider de ne pas l'utiliser, mais je ne peux jamais, jamais l'écraser. D'accord.
Le problème des alcooliques, il faut pas. Il sait qu'il y a du plaisir à boire,
voilà.
Mais il peut jamais oublier le plaisir.
Jamais, jamais, il réussira à se convaincre, d'accord, qu'il n'y a pas de plaisir. C'est impossible.
Voilà. Ce
qui peut arriver, c'est qu'il va avoir d'autres choses qui vont lui montrer que c'est pas bien, donc il va réussir à se retenir. Mais c'est très dangereux. Il peut retomber aussi fort qu'avant. C'est une drogue. C'est comme ça. C'est la même chose. Le Yitzhara, c'est une drogue. Et il s'arrêtera jamais. Donc, dans les mots, l'Admor HaZaken est vraiment... je ne sais pas si vous remarquez le nombre de mots qu'il emploie ici, si vous pouvez le voir en français. Il emploie des mots très, 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 très clairs. Il dit, il est aussi fort qu'à la naissance, il ne s'est pas annulé, « Velonit batel bemiut legabeatov », il ne s'est pas annulé parce qu'il est minoritaire par rapport au bien. « Velonit remim komoklal », il n'a même pas été repoussé de sa place. Il est toujours à son poste. Il n'y a rien à faire. Que ce soit clair. Alors, vous savez que l'été, c'est un moment dans lequel le Yetzer Hara nous attaque beaucoup plus que l'hiver. Pourquoi? Parce que l'été, c'est un moment dans lequel on a moins envie de travailler.
Tout est chaud.
Et non, c'est beaucoup plus simple que ça. Ça n'a rien à voir avec ça.
D'accord.
L'été, c'est un moment. L'hiver, les gens aiment travailler. Enfin, aiment travailler. Ils sont dans un état d'esprit qu'il faut travailler. Quand ça, c'est l'hiver. Quand arrive l'été, instinctivement, même si on n'est pas encore en vacances, on n'a pas trop envie de travailler. C'est comme ça. Ça arrive déjà le mois de, surtout en France, le mois de mai, de juin, etc. Les gens, ils sont déjà dans la tête dans les vacances. Il y a un problème avec ça. C'est que le Yetzer Tov veut le kiff. Le kiff, c'est l'oisivité. Le yetzarara, pardon, excusez-moi. Le yetzarara veut le kiff, veut l'oisivité. Le yetzertov veut travailler. Donc quand tu travailles, travailles, même si tu travailles dans ton boulot, qui n'est pas Kodesh, le fait de travailler, quelque part, ça éteint le yetzarara. Comme c'est écrit dans Pirkei Avot, c'est écrit dans Pirkei Avot que le travail, ça annule le yetzarara. Ça casse le yetzarara. D'accord? C'est Mevatel, comment c'est écrit là-bas? Yafat Torah im Derech Eretz, chez Giyat Shneem Mashkarat Avon. L'étude de la Torah avec le Derech Eretz, ça veut dire avec le travail, c'est très très bien. Parce que l'étude combinée, parce que pardon, la fatigue combinée des deux fait oublier la faute. Le bonhomme, il rentre chez lui le soir, il est tellement crevé, que quand le Yitzhara, il lui propose une Avira, il lui dit, écoute, pas la force, c'est pas tranquille, demain tu me parles de ta Avira. C'est-à-dire que c'est très important dans la Torah d'être tout le temps occupé, occupé, occupé. Or, quand on arrive en vacances, qu'est-ce qui se passe? On s'occupe moins. Comme on s'occupe moins, automatiquement, l'oisivité amène la faute. C'est la raison pour laquelle, en été, le Yetzara nous attaque plus. Il y a une autre raison que donne le Rabbi Yosef Yitzhak. Le Rabbi précédent, il dit, c'est quoi le symbole de l'été? C'est le soleil qui tape fort. Le soleil, dans la Torah, c'est Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, si le soleil physiquement tape plus fort, ça veut dire qu'en vérité, Dieu éclaire plus fort dans le monde. Et qu'on a plus de possibilités d'étudier la Torah en été qu'en hiver. Donc comme le Yetzara, il est conscient que l'étude de la Torah en été a plus d'impact qu'en hiver, donc il fait tout pour te mettre un Yetzara béton, pour être sûr que tu n'ouvres pas ta Torah. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je peux vous dire, quand j'en ai parlé récemment dans un Fabringen, les meilleurs souvenirs d'études que j'ai, d'accord, c'est les souvenirs quand on allait à la montagne, au soleil, étudier la Torah. Vous n'avez pas idée à quel point c'est une étude qu'on ne peut jamais retrouver, d'accord? Comme j'irai Bezat Hashem cette année. On n'a pas idée de la qualité de l'étude de la Torah qu'on peut avoir quand le soleil éclaire très fort. Shemesh, parce que Shemesh, c'est qui Shemesh? Shemesh, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, pour revenir à notre sujet, ce qu'on doit être clair, c'est que le Yetzara est toujours là, il ne s'arrête jamais. On doit toujours être sur le qui-vive. Et même quand on croit que le Yetzara n'est pas en fonction, comme c'est un autre moteur, et ben automatiquement le moteur du Yetzara est toujours là, est toujours présent. Et si vous voulez, c'est un lance-missile qu'on pourra jamais exterminer. Impossible. On peut lui enlever des missiles peut-être, mais on pourra jamais éteindre le lance-missile, c'est impossible.
Dis-moi, ouais. Tu veux peut-être extrapoler quelque part que Hachem il nous envoie en Égypte pour qu'il nous fasse travailler comme des chiens, qu'on n'ait pas le temps
pas de
préparer le Yetzara?
J'ai pas dit ça.
Ah, bon, non.
Alors, Rak, seulement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu caches ici? Ok. Rak seulement. Chez Einlo, Shlita, ou même Shala, Leit Pachet Bevere Agouf, Mipne Akadosh Baruchu, A Omed Limin Evion, Ve Ozer Umeir la Nefesh Elokit. En vérité, qu'est-ce qui fait que ce moteur-là, du Yetzarara, on arrive à l'éteindre de temps en temps, on arrive à ne pas l'écouter? C'est l'aide d'Akadosh Baruchu. C'est quoi l'aide d'Akadosh Baruchu? L'aide d'Akadosh Baruchu, c'est les appels de phare. On l'a développé très rapidement la semaine dernière, je voudrais m'arrêter un peu plus dessus aujourd'hui. C'est les appels de phare qu'on a dans la vie. C'est quoi ces appels de phare? Ça nous arrive des fois dans la vie, on se lève un matin et on se dit, je vais me reprendre. D'où ça vient cette volonté-là? Alors il y a des gens, ça vient suite qu'ils ont perdu quelqu'un dans la famille, Dieu préserve, ou bien il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie, d'accord? Donc ils se remettent en question. Bon, ça c'est une chose. Mais il y a des fois, il n'y a pas de déclencheur qui est explicable. Qu'est-ce qui se passe? La personne, tout d'un coup, il se lève un matin et dit, j'ai envie de me relancer, j'ai envie de repartir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni il a fait un rêve, ni il a rien fait du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, ce qui est expliqué, c'est expliqué dans le Zohar, que la Neshama reçoit constamment des appels de phare d'Akadosh Baruch Hu. Constamment. Il y a constamment des appels de phare. Seulement, en général, ces appels de phare, on ne les voit pas. Et de temps en temps, Dieu nous ouvre les yeux pour percevoir ces appels de phare. Et quand la Neshama perçoit cet appel de phare d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, elle envoie un signal au corps et dit, hey, faut se reprendre, baba, lève-toi, bouge-toi. C'est un appel de phare que Dieu fait. Alors, après, c'est un appel de phare. Tu peux soit capter le momentum pour essayer d'écraser un peu ton Yetzara et de te lancer dans un chemin de Torah, soit tu n'arriveras pas. Parce qu'il faut comprendre quelque chose de très important. Que on part de la base dans la Torah, que nous, on doit essayer de faire tout son possible pour se mettre dans les rails. Une personne, par exemple, qui fait teshuvah parce qu'il a perdu un proche dans sa vie. Il a perdu un proche, alors il vient à la synagogue, d'accord, etc., il commence à faire le kaddish, etc. Et après, une fois qu'il a pris les rails, et ben, du coup, il est lancé dans les rails. D'accord? Il peut continuer comme ça des années. Pourquoi? Parce qu'on part de la base qu'une fois qu'une personne est dans les rails, à moins qu'il y ait un problème, il restera dans les rails. Il aura un yetzara, mais il est dans les rails. C'est la raison pour laquelle on investit beaucoup dans l'éducation de nos enfants. Pourquoi on investit dans l'éducation de nos enfants? Pour les mettre sur les rails. Parce qu'une fois qu'ils sont sur les rails, on a de fortes chances que ça va continuer comme ça. Le yetzara, il fait un effort considérable pour nous faire dérailler. Parce qu'il sait qu'une fois que tu as déraillé, pour te remettre sur les rails, ça prend du temps. C'est exactement ma mâche comme un train. Tant que tu es sur les rails, bon, il va te faire freiner, il va t'embêter un peu, mais t'es sur les rails, tu repars rapidement. Dès que t'as déraillé, c'est compliqué. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il fait tout pour casser la routine. Par exemple, une personne qui a une routine de venir tous les matins au Minyan. Il a une routine de venir tous les matins au Minyan, il a l'habitude. Un matin, Yetzer Hara lui dit, écoute, aujourd'hui t'es fatigué, laisse tomber. Ne te prends pas la tête. Le Yetzer Hara veut le faire dérailler. Vous allez dire, mais c'est pas grave, ça va, c'est une fois, il se repose un peu, c'est pas la fin du monde. C'est vrai que ça, c'est pas grave. Mais pour comprendre les manigances du Yetzer Hara, il faut voir à long terme. À long terme, le Yetzer Hara veut nous faire dérailler. Il veut nous faire dérailler parce qu'il sait qu'une fois que t'as quitté le rail, après pour te remettre, le lendemain, d'accord, tu vas annuler encore une fois et encore une fois. Je me rappelle, il y avait un rave qui me disait, je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie, ça. Il y avait un rave qui me disait à la yeshiva, quand tu annules un cours une fois, le Yetzer Hara fait tout pour que tu annuleras une deuxième et une troisième fois. Et je peux vous dire, ça m'est arrivé plusieurs fois. À des cours où moi je vais, que des bonnes raisons en plus. Une fois, tu vas pas au cours parce qu'il y avait une très bonne raison. Et tu sais pas pourquoi, la semaine d'après, tout d'un coup, pas qu'il y a une autre raison qui arrive pour qu'on ne pas aller au cours aussi.
Ouais.
Et deux semaines, et trois semaines. Et tu comprends pas, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Mais en plus, le pire, c'est que c'est des bonnes raisons à chaque fois. C'est des bonnes raisons, des raisons qui sont valables.
Ouais.
Mais quand tu mets la totale, tu dis, voilà, la semaine dernière, cette semaine, la semaine d'après, tu dis, mince, il y a un problème, là. Tout d'un coup, ça arrive, on voit trois semaines d'affilée des bonnes raisons. Et ça, je peux vous garantir que j'ai eu plusieurs fois dans ma vie, et je suis sûr que tout le monde peut le voir dans sa vie. Mm-hmm. Et quand on arrête une mitzvah, le Yetzer Hara, il s'arrange pour que tu l'arrêtes une deuxième fois. C'est comme ça. Parce qu'il t'a fait dérailler. Une fois qu'il t'a fait dérailler, c'est compliqué. Donc c'est quoi l'aide d'Akadosh Baruch Hu? L'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est que de temps en temps, Akadosh Baruch Hu te donne une aide pour te remettre sur les rails. Il te donne une grande lumière comme ça, pas pour te remettre sur les rails. Parce que Dieu se dit, une fois qu'il sera sur les rails, on a de fortes chances qu'il va continuer comme ça. Ça, c'est le sens des appels de phare qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie dans la vie, qui nous aide à nous remettre sur les rails, en espérant qu'après Bezrat Hashem, une fois qu'on est sur les rails, on continue comme ça. Ça, c'est aussi le sens de toutes les fêtes Bezrat Hashem qui vont arriver très bientôt, du mois d'Eloul, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, etc. C'est qu'une fois par an, on essaie de nous remettre sur les rails. Parce que Dieu sait qu'une fois qu'on est sur les rails, eh ben, on a de fortes chances pour que ça continue comme ça. Malheureusement, après, on déraille, on se remet sur les rails, on redéraille, etc. Et c'est comme ça que ça continue. Ça, c'est l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant? On a expliqué qu'en vérité, le Yetzer Hara ne change jamais. Il sera toujours là, aussi puissant, aussi fort. Sauf qu'on a une arme qu'on peut avoir contre lui, c'est l'arme de la raille. Le fait que quand on est sur les rails, c'est très difficile à nous faire dérailler. Un train qui est avancé, c'est difficile à le faire dérailler. Cependant, ce qu'il faut savoir, d'accord, c'est que la même manière qu'il y a les rails du bien, il y a les rails du mal. Et ça, c'est pour répondre à ta question, Michael. C'est la question que tu as posée tout à l'heure. Est-ce que le rachat n'a pas la volonté? Qui c'est qui a posé la question? Est-ce que le rachat ne peut pas avoir la volonté de s'en sortir? Il peut avoir la volonté de s'en sortir. Mais la Gemara a dit que le rachat, tellement il peut faire de Averot qu'il est dans les rails du mal. Et quand tu es dans les rails du mal, c'est très difficile de dérailler pour faire du bien. C'est-à-dire que même si tu sais que c'est pas bien, c'est très compliqué. Parce qu'il se complaît dans ce qu'il est. Il se plaît, il est bien. Donc c'est pour ça que la Gemara dit que les Rechaim, Chayehem l'im Charatot. Les Rechaim, leur vie est pleine de regrets. Ils sont constamment en train de regretter. Alors pourquoi ils ne s'arrêtent pas? Ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils n'arrivent pas à dérailler. C'est dur de faire dérailler un train.
Mais ils disent aussi, au point où j'en suis, de toute façon.
Non, c'est même pas ça. Ils s'en veulent à chaque fois. À chaque fois, ils disent, oh, je vais arrêter. Mais ils n'arrivent pas parce qu'il est pris dans les rails. C'est pour ça que la routine est très importante.
C'est déjà pas mal.
Bien sûr, c'est pas mal. Mais avec ça, en fait, la Gemara Zaken n'en parle pas ici, mais je voudrais m'arrêter sur un point très important. Je pense que c'est un point très important. Quand on éduque nos enfants, c'est important de les habituer à une routine. La routine est très très importante parce que ça peut les sauver de beaucoup de choses dans la vie. Parce que c'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer ici. Qu'en fait, quand on est dans une routine, des fois il y a des gens qui se moquent un peu de ça. Ils disent, mais oui, mais finalement, quelle valeur ça? Tu viens à la synagogue, tu lis un texte, tu fais même pas attention au texte que tu lis, d'accord? Tu viens par routine. Et c'est vrai, c'est une bonne question ce qu'ils disent. Ils disent, quelle valeur ça a? Ils disent, quelle valeur il a ton Shabbat, tu fais par routine? Quelle valeur ont tes misères, tu les fais par routine? C'est des arguments que j'entends souvent. D'accord? Vous entendez Rabotai la question? C'est un argument qu'on entend souvent. Les gens, ils disent, à quoi ça sert? Tu dis à quoi ça sert? D'accord? C'est vrai. Récemment, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, il est dans une école juive, et il voit les enfants en train de faire la tefila. Il dit, mais il comprend même pas ce qu'il raconte. À quoi ça sert? C'est vrai, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils font ici? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que c'est vrai qu'ils comprennent pas ce qu'ils font. Et bien, il faut faire des efforts pour qu'ils comprennent ce qu'ils font. C'est un autre sujet, mais bon, en tout cas, on fait ce qu'on peut. Mais notre but dans l'éducation, c'est quoi? C'est Chanor la Nahar Alpi Darko. De mettre le Nahar, le jeune homme, l'enfant, Alpi Darko sur les rails. Le plus dur, c'est de le mettre sur les rails. Comme ça, il sait où sont les rails et quand est-ce qu'il a déraillé. Et même si dans sa vie, ça lui arrivera de dérailler, il se rappellera où sont les rails. Et il sera conscient qu'il a déraillé. C'est le plus grand cadeau qu'on peut donner à un enfant, de lui donner ce sens de savoir quand je suis sur les rails et quand j'ai déraillé. Ça veut dire que, ne croyez pas que des fois, quand on voit nos enfants, surtout quand ils grandissent, des fois, on peut avoir l'impression qu'ils ont déraillé. C'est pas très, bien sûr, c'est grave, ça nous fait de la peine. Mais le fait même, comme ce que tu as dit, Abraham, qui savent où sont les rails et qui sont conscients qu'ils ont déraillé, c'est déjà un cadeau extraordinaire qu'on leur a donné. Leur donner la chance de savoir où est la vérité, où est le mensonge. Parce que sachez qu'il y a des gens qui ne l'ont pas, ça, c'est cette capacité de discerner le bien du mal. Donc ça, c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. C'est quoi l'aide d'Akadosh Baruch Hu? L'aide d'Akadosh Baruch Hu qui est notre père. C'est comme nous, l'aide que nous, en tant que père, on donne à nos enfants. C'est le fait que Dieu nous aide à nous mettre sur les rails. Ça, c'est l'aide qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Ce qui est déjà énorme. Ok? La reine, c'est pour ça. Nikra, Keracha. Voilà pourquoi chaque personne, même le Bédoni, est appelé comme un rachat. Parce qu'on lui dit, c'est vrai qu'on t'a mis sur les rails et que maintenant le train avance et que maintenant, voilà, tout se passe bien. Mais rappelle-toi qu'en vérité, tu es assisté. Et que s'il n'y avait pas cette assistance d'Akadosh Baruch Hu, le Yitzhar, il t'esquinte, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'on te dit, rappelle-toi à chaque instant que tu es Keracha, ça veut dire comme un rachat. Kmamar, Rabotelu, Zichonam, Livracha, comme les Chachamim ont dit, donc c'est la fameuse Gemara qu'on avait dit dans le premier chapitre, Afilu kol aolam kulo omrim lecha tzadik ata, même si le monde entier te dit, tu es un tzadik, eye benecha Keracha, considère-toi, non pas un rachat, mais comme un rachat. Velo racha mamash, et là, chez Yachazik etzmo kebenoni. Donc, pas un racha, mais comme un racha, ça veut dire que tu dois te considérer comme un benoni. Velo le amin le aolam, shomrim, shahara, shebonit batel, gabeatov, chez eux, madrigat sadik. Là, en fait, il pousse encore plus loin que ça. Ça nous concerne pas forcément. Là, il s'adresse même à une personne qui pense être tzadik. Ça y est, il y a la queue devant chez lui. Tout le monde vient pour demander des brachot, etc. Il est tzadik, il embrasse sa main, etc. Il dit, ah, ça y est, rachem, je suis tzadik. D'accord? Tout le monde dit, t'es un tzadik. Alors là, il va dire, ça y est, tout le monde dit que je suis un tzadik, alors je suis un tzadik. Il se dit non. Peut-être qu'en vérité, je suis pas un tzadik. Peut-être que je ne suis qu'un bédoni. Ah, dans ce cas-là, si je suis un bédoni, pourquoi le Yetzara ne m'attaque pas? Parce que je suis sur les rails. Et comme je suis sur les rails, alors mon Yetzara, j'ai trouvé une formule qui fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Mais c'est pas parce qu'il ne s'exprime pas qu'il n'est pas là. C'est pas parce qu'il ne s'exprime pas qu'il n'est pas. Il est là, et il peut sortir, tu sais pas d'où. Il peut sortir d'un tunnel. Voilà, on parlait des tunnels. C'est pas d'où il va sortir.
Donc il faut ça, faire sauter le tunnel si on comprend.
Ah bah faut tout détruire.
Oui, même le tzadik parfait. Parce que le tzadik parfait, c'est pas parce qu'il ne ressent pas le mal qu'il n'en a pas. Un moteur peut être éteint, mais toi donc du coup t'as aucune manière de le savoir. Le moteur est éteint, mais il est là. On a le fameux exemple de Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Pendant 80 ans c'est un tzadik. C'est-à-dire qu'il a éteint son moteur. Et après, il a redémarré et il est devenu sadducéen. Il a renié à la Torah orale. Comment c'est possible? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moteur que tu éteins, que tu peux rallumer. C'est toi qui décides quand tu l'éteins, quand tu le rallumes.
C'est toi qui l'allumes?
Ah oui, c'est sûr. Qui c'est qui l'allume? C'est toi qui l'allume. Non, il est toujours allumé. Mais tu ne laisses pas s'exprimer, donc du coup, tu crois qu'il n'est pas là. Mais quand tu arrêtes, quand tu baisses la cadence, tout d'un coup, il va t'attaquer. C'est pour ça qu'il nous attaque beaucoup plus en été, parce que comme on baisse la cadence, donc là il dit, ah, attends, viens, je vais parler, non. Il y a rien à faire, tu peux rien faire. On est tellement occupé que du coup on n'a pas le temps toute l'année de penser à ça. Je vous donne un exemple. C'est comme, on sait par exemple, que quelle est la période où les hommes et les femmes s'accrochent le plus? C'est pendant les...
Vacances.
Pendant les vacances. Pourquoi? Attendez, pourquoi?
Ils sont pas occupés, donc ils sont ça.
Pourquoi? Hein? Pourquoi? T'as remarqué ça? T'as tellement remarqué? Hein? Quelle est la période où les hommes et les où les problèmes ressortent? D'accord? C'est quand on est en vacances. Quand on est en vacances ou quand on n'est pas occupé. Ou le dimanche, si tu veux. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Parce que, alors, est-ce que ça veut dire que la marloquette a démarré le dimanche? Non, la marloquette n'a pas démarré le dimanche. La marloquette était là toute la semaine. Seulement, toute la semaine, t'étais tellement occupé que t'avais pas le temps. Quand t'as du temps, tu dis bon, maintenant on va régler les problèmes. Donc c'est la même chose. Le Yitzhara, il va t'attaquer le dimanche, il va t'attaquer quand tu t'arrêtes. Mais ça veut pas dire qu'il était pas là tout le temps, il était là. Mais quand t'étais occupé, il avait pas la possibilité de placer son mot. Mais dès que tu t'arrêtes, bah, il est là, il dit bah, attends, je veux parler moi aussi. Mais en vérité, il était toujours là. Il était toujours là. C'est comme il y a la fameuse histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qu'une fois, il voulait commencer à faire les hakafot de Simchat Torah. La kavod de Simchat Torah d'habitude chez les chassidim, c'est le rabbi qui lance le fameux Ataor Eta, qu'on répète ici pasuk après pasuk. Et les chassidim, ils voient Rabbi Levi Yisraël de Berditchev, et ils le voient devant la bima, donc il va commencer le Ataor Eta, et il le voit, il dit, j'étais là, et ça dure comme ça 10 minutes. Les chassidim, ils comprennent pas, donc tout le cal est là, ils attendent, et ils comprennent pas ce qui se passe avec leur rabbi. Il est là, j'étais pas là, en plus il y a un silence, tout le monde attend. Et après, à la fin, Rabbi Levi Yisraël Yoshé dit, ah, t'as arrêté la date, et il commence. Bon, les chassidim m'ont rien dit, ils ont fait la simra et tout. Après que la simra est terminée, ils ont dit, Rabbi, on aimerait que vous nous expliquiez ce qui s'est passé. Il dit, je vous expliquer, c'est très simple. Il dit, quand j'ai voulu commencer à Tahor Eta, il y a mon Yitzhara qui est venu m'attaquer. Il m'a dit, qu'est-ce que tu te prends, le tzadik, ici, tu vas faire à Tahor Eta? Pourquoi tu te prends? Alors, je lui ai répondu. Je lui ai dit, mais attends, j'ai fait des mitzvot. Je suis parti faire ça, je suis parti faire la mitzvah, je suis parti rendre visite au malade, je suis parti faire les mitzvot. Qu'est-ce que lui répondait Tsar? Il lui dit, j'étais avec toi quand t'es parti. C'est-à-dire quoi, j'étais avec toi? Ça veut dire que je t'ai mis aussi des pensées personnelles, des pensées d'intérêt personnel. Et il dit, chaque fois que j'étais là, j'étais pas là, à chaque fois, je lui sortais des mitzvot que j'ai fait, et à chaque fois, Tsar dit, oui, mais j'étais là aussi. Tu m'as pas vu, mais j'étais là.
Non,
d'accord? Et à la fin, il dit, il y a une mitzvah qu'il a dit, je sais pas c'est quoi la mitzvah. Il a dit, une mitzvah que je lui ai sortie, et là, le Tsar, il a dit, ah, ça, j'étais pas là. Alors, on ne sait pas exactement c'est quoi cette mitzvah. Je crois que c'était quand il était parti aider une veuve ou quelque chose comme ça. Que là, même le Yitzhara, il a dit ça vraiment, tu l'as fait les Shem Shamaim. Et là, tout de suite, dès que le Yitzhara, il s'est tué, pop, il a commencé, il a dit à Tahor Eta. C'est une très belle histoire, enfin, c'est une histoire sympathique. D'accord? Qu'est-ce que nous montre cette histoire? Qu'en vérité, le Yitzhara est tout le temps là. Tout le temps, il ne nous lâche pas. Et c'est pas parce qu'on ne le sent pas qu'il n'est pas là. Voilà pourquoi on s'adresse à cette personne-là qui se sent sadique et qui dit ça y est, je suis religieux, je suis irréprochable. On lui dit, le Yitzhara est tout le temps avec toi, il ne te lâche pas, tu dois toujours être sur le qui-vive et tu dois savoir qu'en vérité, au fond de toi, tu es Keracha, comme un rachat. Et comme il dit ici, Velo le'amin le'aolam, ne pas croire ce que les gens te disent. C'est pas parce que les gens te disent que tu es sadique, ça veut dire que tu es sadique. Tu ne vas jamais croire ce que les gens disent. Parce que ta petite voix au fond de toi qui te dit, les choses ne sont pas si facile que ça, tu dois l'écouter pour te dire qu'en vérité, tu n'es pas de sa vie.
Alors, Mandy, dans ce que tu es en train de dire,
oui.
On a la possibilité de devenir Benoni,
oui.
On a aussi la possibilité de devenir Tzadik.
Non.
Non, Racha.
Pour répondre à la question, pour répondre à la question, il faut d'abord définir. C'est une très bonne question ce que vous posez. Je vais répondre à la question. On va rappeler les définitions. D'après le Tania, qu'est-ce qu'un Racha, qu'est-ce qu'un Benoni, qu'est-ce qu'un Tzadik? Un Racha, c'est celui qui faute. Un Benoni, c'est celui qui veut fauter, mais qui ne faute pas. Un tzaddik, c'est celui qui ne veut plus fauter. Seulement, il y a une variante de Benoni, de quelqu'un qui, au fond de lui, veut fauter, mais qui n'a pas le temps d'exprimer cette volonté, parce qu'il est occupé, ou parce qu'il est sur les rails. Et donc, quand on est à ce niveau-là, c'est très difficile de savoir si on est Benoni ou tzaddik. Parce que tu crois que tu es tzaddik parce que tu veux plus fauter, mais en vérité, si la volonté ne s'exprime pas, c'est parce que tu n'as pas donné l'occasion. On va quitter un peu le mode tzaddik Benoni, on va parler de la religion pour nous. Quelqu'un qui est devenu religieux. Qui dit, ça y est, j'ai quitté la vérote, ça m'intéresse plus, la vérote, là. On dit, c'est pas parce que tu crois que t'as plus envie de faire la vérote, que tu n'as plus envie. Peut-être, tu n'as pas donné l'occasion au Yetzarara de s'exprimer, et de te montrer que tu as envie de la vera. Mais t'inquiète pas, que le Yetzarara, en temps et en heure, il te rappellera que tu as encore envie, et comment que t'as envie de la vera. C'est pas parce que tu ne le sens plus que ça veut dire que le problème est réglé. Donc c'est très compliqué en vérité.
L'exemple que t'as mis du Kohen Gadol.
Non, c'est pas grave. Deux secondes. C'est pas grave du tout. Non, c'est pas grave. Au contraire, moi quand je lis ce Perek, c'est rassurant. C'est rassurant. Parce que je me dis, ok. Alors, après, on devrait expliquer la fameuse question de Michael. Michael, je suis avec nous. Alors. Tu vois pas là. Alors. On devrait expliquer la fameuse question de Michael qui est à quoi ça sert tout ça? Se battre toute la vie pour les mêmes problèmes. Puisque finalement, on ne règle pas à 100% les problèmes.
Mais il faut avoir la note.
C'est une autre question. Mais au moins, de me dire que le fait que je me bats toujours sur le même problème, c'est rassurant. Et le fait que, des fois, il me laisse 10 ans de trêve, d'accord, de trêve humanitaire, et qu'après, il repart.
C'est pas à quoi ça sert, c'est dans quel but.
Dans quel but, voilà. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Ok.
Va passer de classe.
Le tout, c'est savoir est-ce que le résultat.
Quand tu passes de classe, c'est un bac à la fin.
Non, après bac, t'as la fac. Après la fac, t'as la maîtrise, alors, le doctorat. Après tu travailles.
Mendy,
oui.
Le tout, c'est savoir dans la graduation.
Ça s'arrête jamais.
C'est le cas qui est devenu.
Oui. Rabbi Yochanan Kohen Gadol.
D'accord. Est-ce que ça veut dire que la graduation de ça, de tout ce qu'il a fait avant, ça ne compte pas? Qu'on compte finalement?
Non. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça.
Non, mais c'est parce que si on transpose ça, non, si on transpose, c'est-à-dire que finalement chaque action que nous on arrive à donner, c'est bien. Mais imagine que.
Écoute, on a continué à l'appeler Rabbi Yochanan Kohen Gadol.
Le résultat final, c'est que finalement tu peux imaginer quelqu'un qui a son préserve, il redescend plus bas qu'il a fait.
Alors,
effectivement, tout ce qu'il a fait auparavant.
Alors, ça, c'est une très bonne question ce que tu peux entendre, la question de Yves. Ça veut dire quelque part, est-ce qu'on peut imaginer une situation, d'accord, que la personne, il croit qu'il a fait échouer, il croit qu'il a changé, et après, non seulement il retombe, mais il retombe encore pire qu'avant. Alors, c'est possible, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en vérité, le Yetzer Hara, même si nous on croit des fois qu'il s'exprime pas, il est constamment en train de chercher à se ravitailler. Et comment il se ravitaille, le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il se ravitaille avec des petites bribes d'informations. Une petite vue par-ci, une petite quelque chose que j'ai entendu par-là, une petite odeur par-ci, un petit truc par-là. Le Yetzer Hara, il prend toutes sortes d'informations et il les met de côté. Et toi, au moment où ça se passe, tu ne te rends pas compte. Et donc, en vérité, ton Yetzer Hara, il ne peut devenir que pire qu'il était à la naissance. Ça, c'est ce qu'il va dire dans la suite. Il va dire quelque chose de très très grave. Il va dire qu'en vérité, notre Yetzer Hara ne peut jamais changer si on n'est pas tzadik, parce que presque personne n'est tzadik. Et si déjà il va changer, ça peut que s'empirer. Ça peut que s'empirer. Seulement, on peut apprendre à travailler avec. Alors, c'est tout.
Question.
Oui.
Si on part du principe qu'on est prédestiné, plus pour être sachant, plus pour être...
J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça.
Tout à l'heure, tu as dit comme ça, que, à la question d'Abraham, tu as dit comme ça, à peu près, hein, que quelqu'un, il pouvait naître avec une faiblesse ou une force à pouvoir faire ou à ne pas faire des avérons.
Dieu lui donne l'antidote aussi.
Il démarre avec un handicap, tu veux dire.
Voilà, il démarre avec un handicap. Ça veut dire qu'il a plus de tendance à vouloir aller à droite qu'aller à gauche.
Mais il a une grosse force de l'autre côté aussi.
Si on... Oui, d'accord. Mais si on parle de ce principe-là, qu'il n'a jamais été dans le bon sens, il a toujours écouté son mauvais penchant. Donc il a commencé avec un capital mauvais penchant important et il a continué sa vie comme ça. Comment on peut dire, puisque tu dis que plus on va dans les rails du Yetzer Hara, plus c'est difficile de sortir. Comment on peut dire que jusqu'à une minute avant son départ, on peut faire tchouva?
Parce que quand Dieu donne à quelqu'un un grand Yetzer Hara, il lui donne aussi un grand Yetzer Tov qui va avec.
Ça s'appelle la grâce.
Sinon, il part avec un handicap. On dit que quand on dit que c'est difficile de quitter cette contrebalance.
Ça, c'est la notion des rails qu'on a expliqué aujourd'hui. Que même si techniquement c'est possible, d'accord, concrètement c'est difficile quand t'es déjà sur les rails.
Si t'as donné autant de force à droite qu'à gauche,
il te donne la même puissance. Mais une fois que t'es sur les rails, c'est difficile pour pousser quelqu'un à changer la routine. Parce que Dieu a créé quelque chose de très important chez l'homme qui s'appelle la routine. Et c'est une chance qu'il nous a donné ça, de s'habituer à quelque chose. D'ailleurs, en passant, tu sais, il y avait un rave une fois qui avait fait un cours sur ça. Il avait expliqué que les Allemands ils marchaient même. Ils avaient utilisé cette technique contre nous. Comment ils ont fait pour prendre des gens qui étaient médecins, avocats, qui étaient même maires de ville? Comment ils ont fait pour progressivement les amener dans les camps? Comment ils ont fait? Il avait expliqué, il y avait un Rav qui est passé par la Shoah, d'accord? Qui avait expliqué qu'en fait, ils ont utilisé une qualité chez l'homme qui est aussi un défaut, qui est la notion de la routine, qu'on s'habitue à quelque chose, qu'on finit par s'habituer. Mm-hmm. Et progressivement, il nous habituait. C'est-à-dire, quand tu as un problème, tu dis, ah, comment on va faire? Rappelez-vous la première fois qu'un missile est tombé sur Israël, sur Sderot. Rappelez-vous comment on se sentait. D'accord? Scandalisé. Après, il y en a, passé comme ça. Après, dans nos têtes, on s'est habitué que les missiles sur Sderot, c'est normal. Après Ashkelon. Après, on avance. Après Tel Aviv. Maintenant, c'est en train de devenir normal qu'il y ait des missiles qui arrivent sur Tel Aviv. Comment ça marche? Parce qu'on a utilisé, ils ont utilisé, ils marchaient même, une nature qui a chez l'homme, qu'on finit par s'habituer. Ils n'ont pas envoyé directement des missiles à Tel Aviv. Ils ont commencé progressivement. Et on s'habitue. Ça veut dire que pour ceux qui habitaient à Tel Aviv, les missiles de Sderot étaient normaux. Et pour ceux de Sderot aussi, les missiles sont normaux. C'est comme ça. Et ils marchaient même, les Allemands, ils ont utilisé beaucoup cette technique-là. Donc ça veut dire que la notion de la routine, ça peut être mamache contre nous, mais ça peut être aussi avec nous. que le Yetzer Tov, le Yetzer Hara, tu l'habitues progressivement à rajouter 5 minutes de limoud par-ci, 5 minutes de limoud par-là, tu lui rajoutes, tu lui rajoutes, tu lui rajoutes, et sans qu'il se rende compte, tu l'as mis sur les rails. Et bon, du coup, il se retrouve avec un tzitzit, avec le Shabbat, etc. Il n'a pas compris comment ça y arriver.
C'est pour ça que les accessoires sont vachement importants.
On est tous comme ça, il y a quelque chose qui ne marche pas à la maison, c'est pas grave, on s'en accommode et après ça devient normal.
Voilà, exactement. Exactement.
Ne croyez pas que c'est rien.
C'est pour ça que c'est très important de rajouter un maximum de mitzvot. Il faut entourer nos enfants aussi, nos enfants, notre famille, d'un maximum de mitzvot. Parce que quand on les entoure de mitzvot, on les met sur les rails. Et une fois qu'il est sur les rails, il est sur les rails, il reste sur les rails après. D'accord ? On voit beaucoup ça, c'est une chance qu'il y a toujours qu'on nous donne. Donc, Adraba, au contraire. Alors, je suis dans les mots. Je suis avec Adraba. Vous avez Adraba ?
Donc, quand on est habillé en religieux, je peux vous dire qu'on ne rentre pas dans n'importe quel endroit, on fait très
voilà.
Attention.
Voilà. Adraba, au milieu de la page 182. Ve'adraba, et au contraire, nitrazek yoter. Non seulement que le mal, le yetzarara, ne s'affaiblit pas, mais au contraire, il se renforce avec le temps. Ve'em shechazman, avec le temps, shenishtameshbo, arbe, ba'achila, ushtia, usha'arineno, lamazid. Avec le temps, à force de manger, de boire, et les autres plaisirs du corps, d'accord? D'autres plaisirs, qu'avec le temps, on habitue le corps à avoir du plaisir, ça peut que s'empirer. Donc le yetzarara ne nous lâchera jamais, jamais, jamais. D'accord?
Donc c'est pourquoi il insiste sur la nourriture et la boisson?
Parce qu'on part de la base que la nourriture et la boisson, c'est ce qui fait tomber quelqu'un. Quand une personne rentre dans le plaisir de la nourriture et de la boisson, alors après, progressivement, il veut encore plus de nourriture, encore d'une meilleure qualité, encore de meilleure qualité, et c'est ce qui l'amène après à chercher d'autres plaisirs en dehors de la nourriture et de la boisson. On voit que ce qu'il y a de plus primaire chez une personne, ce qu'il y a de plus primaire chez une personne, c'est l'envie de manger et l'envie de boire. Un enfant, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi la première volonté d'un enfant? C'est quoi? C'est quoi le premier kiff d'un enfant? C'est boire, manger. Et bien sûr aussi le fait que sa mère le prend dans les bras. C'est ça les premiers plaisirs. Et c'est comme ça qu'on le fait tomber, en mangeant et en buvant. C'est pour ça que le Rambam insiste beaucoup. Il dit que c'est une ségoula, par exemple, et c'est très important pendant Yom Tov d'avoir des invités à la maison, en tout cas de s'efforcer d'avoir des invités à la maison, ou au moins, si on ne peut pas le faire, au moins d'essayer d'aider, comme on fait ici, une caisse qui va aider des gens pour Yom Tov. Parce qu'il dit sinon, si Yom Tov devient uniquement des repas qu'on fait, des grands repas qu'on fait, il dit dans ce cas-là, le Rambam il dit, ce n'est plus des repas de fête, c'est plus la simra de Yom Tov, mais c'est la simra de ton ventre. C'est le mot du Rambam. Pourquoi? Parce que voilà, parce que le Yetzara, sous prétexte, d'accord? C'est Moti, ça oui. Le Yetzara, sous prétexte, d'accord, que c'est pour un plaisir de Shabbat et Yom Tov, il peut te retrouver à kiffer. Là, je touche à un autre sujet, puisque vous avez posé la question. Qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui fait un repas de Shabbat et qui kiffe grave le repas? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien?
Ouais, moi c'est bien. Bien, moi.
C'est bien. Moi je spiritualise la Kaila.
On a dit que c'était bien.
Est-ce que, alors, je vais répondre comme un juif par une autre question. Est-ce que, d'après vous, il le fait que pour honorer le Shabbat?
Non, il le fait pour savoir.
Non. Ah, moi c'est que pour honorer le Shabbat. Je choisis les meilleurs plats possibles pour Shabbat.
Non, je suis pas d'accord.
À la fin, c'est pas
ça. Au début, pas souci, c'est pas souci les deux.
C'est une question compliquée.
Non.
En vérité, bon, je vous laisse une matière à réflexion pour Shabbat prochain.
Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu prends quelque chose de très très bon et que tu le mélanges à Shabbat, il s'automultiplie. Il devient encore meilleur.
Donc c'est ce qu'il dit ici. D'accord? Je reprends dans les mots. On dit que chez les chassidim, on n'était pas trop méader. Ça veut dire que on ne faisait pas trop attention à la table. Ça veut dire à qui fait grave au repas de Shabbat.
Ouais, ben en tout cas.
Pourquoi?
Dieu bénisse sa santé.
Parce que non, pourquoi? Je vous explique pas du tout. Pas du tout. Expliquez pourquoi.
On dit que c'est bien qu'il faut une belle table.
Il faut une belle table. Il faut une belle table. D'accord.
On va pas mettre des plats moyens.
Alors, je veux dire quelque chose. La femme, elle prépare ce qu'elle prépare.
Oui, mais
après, quand le mari dit, tu comprends? Il faudrait que tu rajoutes ci, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Et qu'il fait des commandes maintenant. Tu comprends? Alors là, on te dit, il faut bien se poser la question.
C'est parce qu'il était chez sa mère avant.
D'accord? Il faut se poser la question. Il fait des commandes, il dit, je veux ci, je veux ça. Il faut se poser la question, est-ce que c'est pour le kavod de Shabbat ou est-ce que c'est pour notre kavod? Et moi, j'ai vu des gens, je peux vous dire que j'étais à New York, que j'étais même ici à Paris chez des gens, chez des chassidim. J'ai vu des gens que le repas de Shabbat, bon, bien sûr, c'était une belle table, etc. Simple.
C'est quoi
le cabaret simple? Simple. Un petit poisson. Non, j'ai pas dit qu'il n'y a rien sur la table. J'ai pas dit ça. C'est simple.
Un poulet par personne. Voilà.
Simple, ça veut dire qu'on ne rentre pas dans les kiffs. Par exemple, il y avait le fameux chassid que je vous ai parlé, le Rav Nissan Nemanov, celui qu'on a beaucoup parlé qui était Benoni. La glace était interdite chez lui à la maison.
La crème glacée, tu vois.
La glace. La glace, la glace, la glace.
Ah, les glaçons.
Ice cream.
Oui, crème glacée.
Pourquoi ?
Ça va, on avait compris.
Pourquoi ? D'accord. Pourquoi il interdisait ? Interdit, pas interdit, c'est un grand mot, d'accord ? Ses enfants, ils prenaient ce qu'ils voulaient, mais avant.
Lui,
pourquoi ? Parce qu'il disait, à quoi elle sert la glace ?
Parmi.
Bah, à se faire plaisir.
Quand tu prends la glace, t'as déjà fini le repas, t'as plus faim. On est d'accord ?
Mais non, on peut se garder une place.
C'est pareil pour un fruit, alors.
C'est ? Ah, ça donne, c'est exactement. Alors, à quoi ça sert ?
Ça sert à séparer le poisson de la viande.
Donc lui, non, la glace après, fruit. Après la viande.
Ah, un bon fruit.
Ou bien les gâteaux, à quoi ça sert ?
Ça sert à montrer que ça
va pas vous en plaisir aussi. La glace, c'est un poisson.
C'est un niveau. Je dis pas que je suis à ce niveau, et à mon avis, j'aurais deux secondes. D'accord ? La glace, le chocolat, les gâteaux, d'accord ? Je ne dis pas que je suis à ce niveau-là, et à mon avis, il y a très peu de personnes.
Il dormait sur une planche à clous.
Attendez, rabotaille. Laissez-moi arriver, s'il vous plaît. Juste deux secondes, je vais arriver au bout du raisonnement. À mon avis, il y a très peu de personnes dans le monde, très peu, ça peut se compter sur le bout des doigts, les gens qui sont à ce niveau-là. D'accord ? Les gens qui sont à ce niveau-là, qui sont à un niveau comme ça. Seulement, ce que je veux vous dire, d'accord ? C'est qu'il faut comprendre que c'est les gens qui sont à un niveau pour lequel ils veulent se priver des plaisirs de ce monde-ci parce qu'ils savent que plus tu as un plaisir, et plus ça te poussera d'avoir d'autres plaisirs. Je vais vous donner un exemple. Excusez-moi, deux secondes, laissez-moi arriver au bout du raisonnement. Pas du tout. Je vais vous donner un exemple. D'accord ? On sait par exemple qu'il y a beaucoup de tzadikim, d'accord, et des exemples que je peux vous prouver et dans le monde chassidique et dans le monde non chassidique. Je vais commencer par le monde chassidique. Dans le monde chassidique, lorsque le rabbi a perdu sa femme et qu'il faisait les shiva chez lui à la maison, donc pour la première fois, les gens sont rentrés chez lui à la maison. D'habitude, il recevait tout le monde 770. La première impression, et mon père m'a raconté, parce qu'il était, il a voyagé pour les shiva de la rabbanite, donc il est rentré dans la maison du rabbi pour consoler le rabbi, comme tous les chassidim, dans les shiva. Il a raconté, il pouvait demander à toutes les personnes qui ont visité, la première chose qui leur sautait aux yeux, c'était la simplicité.
Il n'y a pas beaucoup de meubles.
Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de meubles, un frigidaire simple, il n'y a pas la cuisine américaine, vous savez, les Américains avec la grande big cuisine américaine. La simplicité. Attendez, premier exemple. Deuxième exemple. Vous prenez par exemple le Rav Kanievski, d'ailleurs, Kadosh Baruch Hu lui accorde une longue vie. Chez lui à la maison, il habite à Bnei Brak. À Bnei Brak, il fait très chaud. D'accord ? Pendant des années, des dizaines d'années, il n'y avait pas de clim. Il n'y avait pas de clim. Et ses élèves lui disaient, ils voulaient lui acheter une clim. Il était prêt à lui payer la clim. Il dit, on va vous installer la clim, c'est pas possible. Et il le voyait, vous savez, la fameuse image, il est avec son talit de katane, en transpiration. Il transpire. D'accord ? Parce qu'il fait très chaud des fois à Bnei Brak.
Ouais.
Et les élèves lui disent, on va vous faire une clim. Et maman, comme le rabbi, pour moi, c'est la même chose, parce que pour moi, c'est une idée très importante dans la Torah. Il dit, non, je n'ai pas de clim. Il dit, comment on fait mes parents? Je me débrouille, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce qu'à la fin, comment ses enfants ont réussi à le convaincre qu'il fallait mettre une clim? Ils lui ont dit, toi, t'es pas besoin de clim. Mais les gens qui viennent te voir dans ton bureau, ils vont peut-être avoir chaud. Il a dit, si on veut avoir chaud, alors mettez une clim. C'est-à-dire qu'après des années, ils ont réussi à le convaincre. Le rabbi, par exemple. Pendant des années, il voulait pas qu'on change le système téléphonique du 770. Il y avait des nouvelles technologies pour changer le lumière, le téléphone, etc. Et on avait dit pourquoi ? Ça marche ? Si ça marche, pourquoi ? Pourquoi changer ? Pourquoi tu veux changer si ça marche ? D'accord ? Pourquoi passer à l'iPhone 5 pourquoi passer à l'iPhone suivant si l'iPhone d'avant marche ? D'accord ? Elle a raison, c'est logique.
C'est pas passer à l'iPhone 5 si l'iPhone 6.
Non, c'est pas mal ta chrite.
Non, mais ça dépend.
C'est quoi, hein ?
Il n'est pas dans la consommation.
Encore une fois, d'un côté, il te dit qu'il faut justement, comme tu dis, Michael, qu'il faut utiliser la technologie pour la Torah. D'accord ? Mais quand tu vois que c'est pas nécessaire, tu dis pourquoi ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que je vous montrais par là ? Que c'est la même chose pour le repas de Shabbat, pour le plat de Shabbat. Quand on voit chez des grands chassidim et chez des grands tzadikim comme ça, leur table de Shabbat est archi simple. C'est pas une grande table de Shabbat. C'est une belle table de Shabbat, des bougies, etc. Mais c'est pas, ça veut dire on est dans la simplicité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont persuadés que, ils sont persuadés que c'est pas forcément que le plaisir de la table va être uniquement pour le Shabbat. Donc ils préfèrent ne pas trop en faire pour ne pas trop attirer leur Yetzarara. C'est un niveau qui est très compliqué. Je vous dis, il y a très peu de personnes dans le monde qui sont à ce niveau-là. Mais c'est juste pour vous montrer quoi. Que même une personne qui est de cette envergure que lui, on va dire, mais attends, lui, il est intouchable. C'est un rabbi. Et ben même une personne comme ça, il est conscient, il se dit, je dois continuer à me priver parce que le Yetzarara ne s'arrête jamais. Et au contraire, si déjà, il peut qu'augmenter. Donc il va se priver pour ne pas donner de la matière à son Yetzarara pour pouvoir l'attaquer plus tard. Non, je fais une pause pour les questions. Parce qu'il y a plusieurs questions.
Moi, j'ai déjà lu des histoires, par exemple, sur des chassidim,
Et justement, eux, c'est quoi, les histoires que vous disiez, c'est que eux, justement, ils mangeaient beaucoup. C'est-à-dire qu'ils étaient, on va dire, incollables sur les lois alimentaires et que, justement, certaines personnes leur disaient d'aller les voir parce que, bon, c'est des personnes bien portantes et qui connaissaient tout sur, par exemple, c'était des gens qui allaient faire plein de brachot, justement, qui eux-mêmes allaient les chercher. Par exemple, voilà, Adam a arrêté, justement, pour faire des brachot en plus.
J'ai compris, mais c'est très compliqué d'être à ce niveau-là. Je te donne un exemple. Imagine-toi, par exemple, il y a un esguerre de quelqu'un et qu'il y a un grand buffet à côté. Tu vas aller au buffet que pour faire des brachot?
Ah
d'accord, non, oublie que...
C'est
tu vas manger
une olive, un cornichon, un canapé et des dos.
C'est très dangereux.
C'est-à-dire, de quel côté
c'est interdit? Non, j'ai pas dit que c'est interdit, attention. Je vais expliquer simplement ce qu'il dit. Attendez, attendez. Pas du tout. Attendez, attendez. Je vais mettre... Je réponds à ta question à leur question, c'est la même question. Vous posez la même question d'une autre manière.
Non, vous avez réduit...
Oui.
Il y a une mitzvah dans la Torah de ramener des chlamim.
Alors, je réponds à la question. Il n'y a aucune interdiction dans la Torah de kiffer. Rabotai, il y a une subtilité importante à comprendre. Il n'y a aucune interdiction de la Torah de kiffer, et au contraire, il fait des brachot, c'est une mitzvah, tavo à la bracha, c'est très très bien. D'accord? Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on a expliqué que qu'est-ce que le Yetzer Hara utilise pour s'exprimer, c'est les plaisirs. Donc, comme ces tzadikim là sont conscients de ça, donc ils vont se priver pour ne pas donner une matière à leur yetzer hara de s'exprimer. Parce qu'ils sont conscients que leur yetzer hara, si vous voulez, ils sont arrivés à un tel niveau de finesse que pour eux, la moindre petite déviation peut leur éveiller leur yetzer hara. Qui est un yetzer hara qui est très 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 fin par rapport au nôtre. Le nôtre, un beefsteak ne lui fait rien. Mais pour lui, pour un tzadik comme ça, manger un bon beefsteak, que ça peut lui réveiller son yetzer hara. Parce que tellement il a eu des privations et tellement il a éteint et cassé son yetzer hara que ça peut réveiller son yetzer hara. Mais encore une fois, c'est un niveau, on n'est pas à ce niveau-là. D'accord? Et c'est pas notre but d'arriver à ce niveau-là. Notre but, simplement, de comprendre qu'il faut savoir que le yetzer hara, il faut pas trop lui en donner. Parce que quand tu lui en donnes trop, quand, après, automatiquement, il veut la surenchère, il veut encore plus de kiff et encore plus de kiff et encore plus de kiff. Donc ça veut dire que même un tzadik de cette envergure, est persuadé que son Yetzahara est toujours là, que son Yetzahara ne s'est jamais arrêté, que son Yetzahara continue toujours. Et c'est la raison pour laquelle on voit chez ces grands tzadikim qu'ils faisaient attention à toutes ces privations qu'on a pu expliquer. Et vous pouvez voir, chez n'importe quel Gdolim que vous allez rentrer, vous verrez qu'ils vivent dans la simplicité. Et pour répondre à ta question, je vais rajouter encore un point, la question que tu as posée. Il y avait un tzadik qui s'appelait Rabbi Israël de Rougine. Quand il sortait dans la rue, on le voyait toujours marcher avec des chaussures recouvertes d'or. D'or. De l'or. Il était très critiqué.
Très riche.
D'accord?
Officiellement.
Très, très critiqué. Parce que je me disais, comment, Rabbi, il est là, se balader avec des chaussures en or, etc. Comment?
Il avait un carrosse.
Pendant des années, personne n'a compris. Lorsqu'il est parti de ce monde, écoutez bien l'histoire, ses enfants ont montré au monde, parce qu'ils voulaient pas qu'on dise, ils ont montré les chaussures n'avaient pas de semelles. Ça veut dire qu'il marchait avec des chaussures sans semelles, pieds nus, pratiquement. Enfin, il avait juste de quoi tenir, quoi. D'accord? Pieds nus. Et donc, il avait les pieds meurtris, ça veut dire. Mais il marchait avec des chaussures recouvertes d'or. Alors, les chassidim n'ont pas compris. Ils disent, mais c'est quoi cette histoire-là? Les chaussures recouvertes d'or? Meurtris. Il a dit, parce que notre père nous a expliqué que d'après lui, c'était important de servir Dieu dans la richesse, parce que la richesse amène la largesse d'esprit. Et que pour lui, pour servir Dieu, il fallait qu'il ait l'esprit large. Et pour lui, marcher avec des chaussures recouvert d'or, ça lui élargissait son esprit. Comme la Gemara dit qu'une belle maison, ça élargit l'esprit d'un homme, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, servir à Kadosh Baruch Hu, il voulait servir dans la largesse, donc il mettait des chaussures en or. Mais ça veut dire quoi? Que en mettant des chaussures en or, concrètement, il n'en donnait pas trop à son etc., et il marchait sans semelle. C'est pour nous montrer que les tzadikim sont d'une autre envergure. C'est pas notre niveau. Il y a une question vitale. Vas-y.
Par exemple, dans les lois alimentaires, parce que là on parlait de nourriture, par exemple, le Shabbat, on sait que par exemple, dans son plat, il ne faut pas que, par exemple, un petit exemple, il ne faut pas qu'il soit fini, il ne faut pas se sentir vraiment rassasié.
Oui.
De plus, ces personnes-là vont essayer, quand elles sont dans cette optique, de multiplier des brachot.
Oui.
C'est-à-dire Aret, Adama, Shéakol, ensuite,
d'accord.
Après, il y a des fois qu'ils font merci.
D'accord, oui, bien sûr, oui.
Voilà. Et ça, normalement, enfin, moi, ce que je me suis dit, pour moi qui était logique, c'est que ça éloigne déjà plus, enfin, ce que je pensais, le Yetzer Hara.
Ça, oui. Mais après, le reste, quand tu commences à kiffer ton repas. C'est une nuance, après.
Il y a la quantité aussi.
Je suis content. Il y a aussi, des fois, être content d'avoir un produit qu'on sait que voilà, c'est de Dieu. Des fois, c'est quelque chose de bien. Des fois, il y a des gens qui prennent, qui sont contents. Ils font plus la prière avec une bracha avec plus de kavana sur des produits, des fois, qui sont pour Israël, pour certains. Ça dépend.
Je comprends. Ok, donc, je comprends ce que tu dis.
C'est ça que j'essaye de comprendre pour voir la différence entre eux et quelqu'un qui va rentrer dans l'autre.
C'est que eux, ils sont à un tel niveau, qu'ils sentent que ça peut les faire tomber. Je vais te donner un exemple. Imagine-toi par exemple que ce tzaddik-là, sa femme l'a servi et que le plat était très bon. Il ne demandera pas à être servi. Quand quelqu'un demande qu'on le resserre, c'est pas parce qu'il a faim. Tu es dans la cuisine, non? Voilà. Normalement, dans le plat, il y avait assez pour qu'il mange. Non, on est d'accord? Pourquoi ils demandent qu'on le resserre? En général, hein?
Bon, c'est bon, par gourmandise, c'est bon, on peut.
Non, mais sinon, il va prendre une baston.
On est d'accord ou pas? Nickel. C'est pour Dieu ou c'est pour le.
Non, moi, c'est pour faire plaisir à ma femme, bon. Pour lui regarder, chérie. T'as tellement bien fait que j'en reprends.
Tout ça pour dire quoi? Je conclue avec ça. D'accord. Je voulais juste deux secondes. Je conclue avec ça. C'est pour dire que. Notre but, c'est pas de devenir tzaddikim comme ça. C'est juste de montrer que même un tzaddik comme ça, qui est d'un niveau tellement grand, il se méfie par rapport à son Yitzhara, à tel point qu'il se prive, parce qu'il sait que la moindre petite chose peut réveiller son Yitzhara. Parce que lui, il a un tel niveau de finesse que la moindre petite chose peut réveiller son Yitzhara. C'est-à-dire que même un tzaddik comme ça, il n'est jamais sûr qu'il a éteint son Yitzhara. Alors si déjà un tzaddik comme ça, il n'est jamais sûr qu'il a éteint son Yitzhara, à plus forte raison nous, qu'on doit toujours être sur notre qui-vive et jamais, jamais, jamais penser qu'on a éteint son Yitzhara et qu'on a réglé définitivement un problème. Les problèmes ne se règlent jamais définitivement. Ça n'existe pas. Le problème du Yitzhara ne se règle jamais définitivement. Ce qu'on peut arriver, on peut obtenir une trêve qui va durer quelques années, quelques temps, d'accord? Parce que bon, on va réussir à l'éteindre, à trouver des techniques qui vont l'éteindre, etc. Mais il finira toujours par revenir à la charge. Voilà ce que je voulais retenir d'aujourd'hui.
Je reviens sur le Shabbat.
Oui.
Il y a une mitzvah de Oneg Shabbat. Maintenant, il y a pour certains tzaddikim, le Oneg Shabbat, ça va être l'étude de la Gemara Shabbat.
Très bien.
Il va passer moins de temps à table, il va pas changer le Shabbat. Oui, c'est ça son Oneg Shabbat. Pour d'autres, le Oneg Shabbat, d'autres tzaddikim, ça va être les piyutim, la bonne table, les machins. Les deux ont approuvé, il y a besoin d'Oneg Shabbat.
Il te aura du chemin.
Au même niveau.
Mais après, il y a une. C'est un très bon point ce que tu dis.
Une histoire que j'ai entendue de Rav Shah. Il a dit sur son fils aîné qui est devenu avocat. Que la raison pour laquelle son fils est devenu avocat aujourd'hui, c'est parce qu'il ne passait pas assez de temps le Shabbat à table à chanter les Nérodes de Shabbat.
Bon, peut-être. D'accord.
Parce qu'en fait, les enfants, ils ont besoin.
Ils ont besoin de ça, oui.
Lui était tout le temps versé sur ça.
Évidemment.
Il mangeait, il allait étudier, comme tous les.
Ça, le rabbi aussi l'a dit. Il a parlé de l'importance de la table de Shabbat. C'est évident. Je comprends. La table de Shabbat est très importante, mais là, on parle d'une nuance au-delà de laquelle c'est plus pour Shabbat.
C'est pas contradictoire.
D'accord.
Ça n'est pas contraire.
Matière à réflexion. Voilà, réfléchissez, ça prend du temps. Moi aussi, la première fois qu'on a parlé à la yeshiva, j'ai pas compris. Mais après, les Shabbats d'après, tu vas voir. Il y aura des moments, vous allez avoir un moment, un flash. Ne vous soyez pas étonné quand ta femme te dit, je te resserre. Prends le resserre. Pour Shabbat?
Non, c'est pour lui faire plaisir à ma
femme.
Et de là, en fait, je vous expliquais juste, je donne un petit preview. Un petit preview de ce qu'on va faire à la rentrée Bezrat Hashem. C'est que on va commencer à parler d'une nouvelle notion qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. C'est la notion de Yid Kafia. La notion de Yid Kafia, c'est que puisqu'on a compris que finalement le Yitzhara, c'est quoi son champ d'attaque? C'est le kiff, c'est le plaisir. Donc sans devenir un tzaddik qui lui supprime tout et prive tout, on va essayer de faire des mini privations. Par exemple, alors certainement ceux qui étaient là au premier, à la première série du Tania se rappellent. Par exemple, je vais acheter une glace. Au lieu de prendre 3 boules, je prends 2 boules de glace. Mais je le dis à personne, ça. Moi, je voulais prendre 3 boules. Et j'ai dit, tu auras pas tes 3 boules. Tu auras 2 boules. Et c'est comme ça.
Mais alors, attends, ça
dépend. Eh ben,
moi, ça me fout les
quelque
points,
part,
hein. Dire qu'il en veut 4 et d'en prendre 3.
Quelque part, c'est un message que tu envoies à ton Yitzhara. C'est pas parce que tu veux kiffer que tu auras. Parce qu'il faut comprendre quelque chose de très important, qu'il va expliquer plus tard. Quand on donne au Yitzhara les kiffs qu'il veut, et qu'après on ouvre une page de Gemara, ou qu'on ouvre une fila, et qu'on sent que ça décolle pas, c'est très souvent à cause de ça. Comme tu as passé ton temps à vouloir faire kiffer ton Yitzhara, et qu'après tu ouvres une page de Gemara, tout d'un coup tu vas étudier, ça décolle pas. Parce que ton Yitzhara, il était en train de vouloir kiffer. Il ouvre la Gemara, il voit qu'il comprend pas, il dit, mais attends, je vais kiffer, qu'est-ce que tu prends avec tes histoires, voilà, c'est pas tranquille maintenant. Parce que tu l'as habitué à vouloir kiffer avec tout ce que tu veux et que tu l'obtiens. Il faut l'habituer au Yitzhara, que c'est pas parce que tu veux que tu l'auras. Et ça, puisque je parle, tout à l'heure on a parlé des enfants, je pense en tout cas, c'est ce que le Rav Azimov nous a répété plusieurs fois, je pense que c'est une base dans l'éducation, et c'est une grande erreur qui se passe à mon avis dans l'éducation d'aujourd'hui, c'est que dans l'éducation d'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui disent tout ce qu'un enfant lui demande, il peut lui donner. Des fois c'est les enfants, des fois c'est les parents qui ont souffert lorsqu'ils étaient enfants, d'accord? Et comme ils ont souffert, alors ils disent on n'a pas envie que nos enfants vont avoir ce que nous on a eu dans la vie. Il faut savoir que c'est pas un cadeau ce qu'on donne aux enfants, et au contraire c'est un cadeau empoisonné qu'on leur donne. Un enfant doit être habitué que c'est pas parce qu'il a demandé qu'il l'aura. Il faut l'habituer à la complexité de la vie, et que pour avoir quelque chose, il faut le mériter. Tu veux quelque chose, tu vas travailler, tu vas avoir des bonnes notes, tu vas faire quelque chose de bien, tu vas rajouter, et là tu auras. Bien sûr qu'on donne des cadeaux aussi, évidemment, hors bonnes notes. Mais il faut habituer un enfant que c'est pas parce qu'il a demandé qu'il l'aura. Il faut l'habituer à ça, c'est très important. Exactement comme avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, je l'habitue, c'est pas parce que tu m'as demandé que tu l'auras. Donc conclusion d'aujourd'hui, le Yetzer Hara est toujours là, il s'arrête jamais. Même quand je crois que je l'ai éteint, que je suis devenu religieux Baruch Hashem sur certaines choses, il est toujours là, il peut revenir à la charge. Et quand tu reviens à la charge, si déjà, non seulement qu'il sera pas moins fort, si déjà, il sera encore plus fort. Et c'est à chaque fois qu'il y aura un nouveau round qui va commencer, il sera encore plus fort et encore plus fort. Mamash comme le Hamas, il marche même à Akadosh Baruch Hu, Ed, Bezrat Hashem, Eret Israël. Je sais pas s'il y aura une solution. Ad vitam aeternam. Mais au moins qu'on ait la possibilité d'avoir une solution, que le rabbi disait, il a expliqué une fois, il a dit que c'est quoi le but dans une guerre? Le but dans une guerre, c'est d'arriver à une situation que c'est pas que l'ennemi n'a plus de quoi se battre. C'est qu'il a peur de se battre. Parce que finalement, c'est une guerre psychologique. C'est qu'il faut qu'il ait peur de relancer une guerre. Donc on va demander à Kadosh Baruch Hu Bracha que Eret Israël, que Tzahal, ils vont aller tellement fort et tellement loin, que tellement ils auront peur que pendant des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, jusqu'à Mashiach, Bezrat Hashem, ils auront peur de relancer notre offensive. Voilà. Oui. Exactement. Pas du tout. Quoi, la privation?
Attends, il va avoir un birkat.
On le voit partout. Regarde, c'est tous les Gdolim.
Si Akadosh Baruch Hu dans un monde, c'est pour qu'on profite au moins des secondes, mais après, il faut en profiter d'un point de vue cachère.
Bon, je suis pas d'accord. On verra quand, on développera ça plus loin.
Il faut avoir deux approches.
C'est pas une approche raciste.